Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au studio Zoé Dupeux et David Acadebled. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et on va parler art sacré et exposition et animation du territoire pendant tout l'été et au-delà. Alors on en parle aujourd'hui parce que samedi il y a donc l'inauguration de la prochaine exposition du musée Marius Vazeille, dont tu es le directeur, David.
Tout à fait, oui. On ouvre une nouvelle exposition ce samedi qui s'appelle Sacrés Objets, qui va mettre en valeur une cinquantaine d'objets venus du territoire, des objets sacrés, qui viennent à la fois des pratiques liturgiques qui sont liées au culte, mais aussi des objets qu'on peut estimer comme patrimoniaux et artistiques.
C'est des objets qu'on trouve dans les églises essentiellement
mais... Alors, principalement, ils viennent des églises. Certains étaient cachés dans les sacristies, ils n'étaient pas vus. D'autres étaient dans les mairies pour mieux les conserver. Et là, ben, on a centralisé tout ça au musée pour que tout le monde puisse en profiter.
Alors, comment on va choisir ces objets? Parce qu'il y a un paquet d'églises. Dans chaque commune, il y a une église. Et dans chaque église, on
89
imagine...
89 quasiment églises, 88.
Alors, sur ces 88 églises, on en a visité une trentaine avec Zoé, donc, du Pays d'Arrée d'Histoire, et Marion du service patrimoine de Haute-Corrèze Communauté. On est allé en Creuse, on est allé dans les gorges de la Dordogne, on est allé sur le plateau. Et donc, on a été fouillé dans les églises, tout simplement, pour regarder ce qui était vraiment intéressant à mettre en valeur.
Et on était accompagnés par Aline et Adrien Gaillard, deux restaurateurs qui, eux, avaient vraiment le regard technique sur la qualité, la qualité de vie des objets aujourd'hui, quoi.
Et peut-être l'intérêt patrimonial aussi.
Oui, aussi, tout à fait, ouais.
Alors comment on entre dans une église? Parce que déjà, en tant que visiteur lambda, on se trouve toujours, souvent, face à une porte close, parce que pas mal d'églises sont encore fermées, parce qu'il n'y a pas toujours du gens pour ouvrir, fermer. Déjà, c'est déjà un travail pour avoir accès, pour comment on fait? On contacte la mairie?
Oui, alors nous, avec au Pays d'Arrêt d'Histoire et au service patrimoine de Haute-Corrèze Communauté, on a vraiment un lien qui s'est créé au fil des années, du travail sur les projets de valorisation du patrimoine et les animations avec les communes du territoire. Donc on contacte les mairies, les maires, parfois directement, pour prendre rendez-vous, avoir les clés de l'église et se faire ouvrir les portes des sacristies et avoir aussi les petites histoires sur comment l'histoire de vie de certains objets, quoi.
Oui, parce qu'il y a des objets, je crois, qui sont un peu voyageurs, si j'ai bien compris.
Oui, il y en a certains qui sont allés jusque Paris, par exemple le calice de Sornac, qui, on ne sait pas trop comment, s'est retrouvé dans une église parisienne et qui est retourné en Corrèze depuis quelques semaines. Après, on a des copies d'objets qui ont beaucoup voyagé, la copie du bus de Saint-Martin qui est à Soudeille. L'original, il a disparu au début du XXe siècle, il est parti en Amérique, et puis il est revenu en France pour se retrouver maintenant au Louvre, alors que la copie, elle, est conservée donc, dans l'église de Soudeille.
Alors c'est un peu finalement la partie matérielle d'une réalité à la fois historique et sociale assez forte en Limousin. Alors, il y a une forte tradition, culturelle, religieuse autour. On connaît les ostensions qui étaient il y a quelques temps, les processions, les reliques, les saints locaux. Voilà, c'est une manière un peu de montrer ça à travers la partie matérielle des objets, c'est ça?
On montre un peu ça. D'ailleurs, on a pris des objets qui parfois servent encore en procession en ce moment, sur ces dernières années. Par exemple, le Saint Sagittaire de Saint-Stier, qui est à la fois un saint local et un saint qui sort pour les processions. Donc oui, on parle un peu de ça aussi. Mais c'est une thématique qui est pleine de surprises et de mystères. On a du mal à expliquer pourquoi à Saint-Stier, il y a un saint qui est apparu, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui n'est pas inscrit, et ainsi de suite. Donc il y a plein de choses qui vont rester sans réponse, malheureusement, ou peut-être que les visiteurs pourront nous les apporter, justement.
Et puis c'est aussi un moyen de travailler ce projet en partenariat avec David du musée et Marion du service patrimoine, de pouvoir mettre en valeur vraiment ces objets qu'on peut qualifier de trésors et qui sont des véritables trésors méconnus du territoire, et donc de mettre en valeur qu'en Haute-Corrèze, on a plein d'objets très intéressants et beaux à voir et à montrer, quoi.
Alors, une fois qu'on les a repérés, qu'on a fait un peu le choix, et il faut les transporter pour les amener au musée, ça n'a pas été mince à faire non plus?
Non, ça n'a pas été tout simple, parce qu'il y a beaucoup de règles autour du transport d'objets. Il faut qu'on soit accompagné par un conservateur d'œuvres d'art. Donc, il a fallu caler toutes ces tournées. Et puis ça, c'était le premier pas. Mais après, il faut aussi se rendre compte qu'il y a certains objets qui pèsent un sacré poids. Il y a d'autres objets qui ont beaucoup souffert dans l'église, avec de l'écaillage, des peintures, des polychromies. Donc tout ça, c'est des choses à anticiper, et c'est pour ça qu'il y avait les restaurateurs d'art avec nous, qui, eux, ont les bons gestes, qui ont été formés à la manipulation. Donc ça n'a pas été simple, mais bien encadré, ça se fait.
Et donc là, les objets sont, j'imagine, tous arrivés à Mémac. Et, avant d'aller au musée, je crois qu'il y a quand même une étape peut-être, peut-être pas de restauration, mais au moins de préparation des objets.
Ouais, effectivement, pour les objets en bois particulièrement, puisqu'il y a des risques d'infestation par des insectes, on les a anoxiés, c'est-à-dire que les objets ont passé 21 jours dans un sac plastique ou avec des absorbeurs d'oxygène. Petit à petit, l'oxygène a disparu et tout ce qui était insectes ou œufs en gestation sont morts. Donc voilà, ça a été une longue étape, parce que c'est un peu long de regarder des objets dans des sacs pendant 21 jours avant de pouvoir les installer. Mais maintenant, c'est fait, ils sont tous hors des sacs.
Oui, alors toi Zoé, d'ailleurs, je crois que tu as cohabité avec pas mal de statues dans ton petit bureau sous sac plastique pendant trois semaines.
Ouais, on a pu cohabiter, en tout cas, on a eu un contact privilégié, c'est vrai, nous, avec les œuvres, pour les avoir vues proches de nous à Mémac pendant plusieurs semaines, c'est sûr.
Alors, on a été interrogé Adrien Gaillard, qui est le restaurateur. J'invite les auditeurs, les auditrices à se reporter aussi à ce petit reportage où il explique vraiment sa technique et un peu les tenants et les aboutissants de cette préparation. Alors, on a une idée un peu de la... Enfin, certainement, vous avez une idée de la période qui est couverte un peu par les objets. Il y a des objets très anciens ou...
Il y a des objets très anciens et très précieux. Il y a les châsses reliquaires, par exemple, qui ont été réalisées au XIIIe siècle. C'était un produit très à la mode au XIIIe siècle, puisque ces châsses qui étaient faites à Limoges étaient exportées jusqu'à Novgorod en Russie ou même en Islande. C'était vraiment un produit phare du culte à l'époque du Moyen-Âge. Et on a des objets plus récents. On a par exemple un ostensoir art déco qui vient de Merlin, qui donc là est complètement différent de tout ce qu'on peut voir, puisque c'est un style artistique qui change beaucoup de choses par rapport à des ostensoirs plus anciens.
Il y a aussi quelques objets du 19e siècle, siècle quand même important pour où on a remis des objets, des vitraux dans les églises, on a remis un peu d'argent dans les églises, et par exemple notamment un ensemble de calices, ostensoirs, patènes offerts par l'empereur Napoléon III à la commune de Combresol, donc là qui était dans l'église et la sacristie.
Et donc ces objets qu'on va voir donc dans une muséographie au musée exposés, peut-être justement on va peut-être mieux les voir que dans les églises, et paradoxalement, parce que dans les églises c'est vrai que c'est souvent assez sombre, il n'est pas forcément mis en valeur, c'est un peu dans un coin, dans des niches, c'est pas toujours facile de voir qu'il y a des beaux objets.
Bah là, on a essayé en tout cas de les mettre en valeur le mieux possible. J'espère que ça répondra aux attentes de tous et de toutes.
C'est vrai qu'on a essayé d'emprunter le plus possible des objets qui n'étaient pas bien mis en valeur, pas bien sécurisés, pas bien conservés parfois. Pas bien. En tout cas, pas dans des conditions idéales, et pas déposséder les églises des objets qui étaient bien mis en valeur et qu'on voyait bien dans les églises.
Oui, par exemple, la Vierge Noire de Mémac ne sera pas dans l'exposition.
Voilà, l'idée, c'est de pouvoir montrer des objets au musée, mais de faire un renvoi vers les églises du territoire qui ont encore plein d'objets à montrer, quoi. Et ça, c'est aussi l'idée de la programmation autour de l'exposition.
On va en parler, justement. Bonne transition, merci. Donc l'exposition, c'est une exposition. Alors on n'a pas donné les dates, on a dit que ça commençait le 15 juin, donc samedi, et ça dure jusqu'au 22 septembre, donc on a l'été, vraiment l'été, parce que 22 septembre c'est la fin de l'été. Et autour de l'exposition, il y a pas mal de choses qui vont se passer aussi, qui ont déjà commencé, et qui vont se continuer pendant l'été. On va en parler un peu. Donc tu parlais d'animation, Zoé. Il y a des animations qui sont portées par plusieurs structures, dont le Pays d'Art et d'Histoire.
Alors, pour cet été, oui, autour de l'exposition. Donc, il y a plusieurs animations programmées sur mes Mac. Je laisserai David détailler un peu plus. Et nous, sur l'ensemble du pays, Haute-Corrèze-Ventadour, on propose deux types d'animations qui vont tourner dans plusieurs communes du territoire. La première, c'est Sacré Monument, avec une visite dansée ou une visite guidée de l'église accompagnée de la danse contemporaine dans plusieurs, autour de plusieurs églises du territoire.
C'est le public qui va danser ou c'est des danseurs?
Non, on a des danseurs professionnels qui vont inviter le public dans une poésie de l'instant, un peu une redécouverte via l'art de la danse du monument église autour ou à l'intérieur de l'église. Donc, j'annonce les dates.
On peut en donner quelques-unes, oui.
On a 5 églises qui vont accueillir ce spectacle-là et qui sera remodelé, réadapté à chaque église du territoire. Donc, ça sera à chaque fois une découverte différente. Donc, on aura fait la chapelle Spinas, Saint-Bonnet-Prébord et Saint-Sulpice-les-Bois pour cet été. Et puis la dernière danse Sacré Monument, ce sera le vendredi 13 septembre à la Mazière Basse, dans l'église rénovée. Donc là, toujours dans la thématique église, avec une église qui a profité d'un très grand chantier de restauration. Et cette date-là, elle sera probablement un peu particulière, puisqu'elle est liée également à un projet d'éducation artistique et culturelle qui a eu lieu cette année, en lien avec le musée toujours, le service patrimoine de Haute-Corrèze Communauté et le pays d'arrêt d'histoire et plusieurs artistes intervenants auprès des classes des écoles de La Mazière Basse, de Palisse, de Soursac et de Neuvic.
Donc un projet d'atelier dans des écoles.
Ce projet-là sur le thème de la lumière, couleur et transparence et le thème du vitrail en lien avec les vitraux restaurés de l'église de la Mazière Basse. Les enfants ont découvert le chantier et ont travaillé sur cette thématique du vitrail avec plusieurs artistes intervenants.
Donc Sarah Duboc, c'est ça, de Vallière?
Oui, Sarah Duboc qui est maître verrier, Charline Montagnier qui est illustratrice plasticienne, Léonard Salle, pardon, plasticien également, et la compagnie Le Pied en Dedans, Aurélia Chauveau, chorégraphe et danseuse, et Mehdi Kotbi, danseur, qui est la compagnie Le Pied en Dedans, qui dansera, nourrie par ce projet d'éducation artistique et culturelle avec les enfants, et nourrie par les différentes églises du territoire, qui danseront cet été dans les églises du territoire.
Voilà, la boucle est bouclée, un projet assez riche, on voit avec pas mal de tentacules qui vont se... Attends, c'est pas très beau, ça. Pas
si, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a plein de fils qui ont été tirés à travers les églises du territoire, à travers le côté artistique, la dimension patrimoniale des objets et des églises, et puis la dimension sensibilisation avec les enfants et les habitants, quoi.
Alors, on parlait de procession tout à l'heure, je vois qu'il y a des déambulations, est-ce que c'est un rapport?
Ouais, c'est le deuxième grand événement qu'on propose qui va tourner sur le territoire. On l'a nommé Sacré Déambulation. L'idée c'était d'emmener les gens dans les églises en dehors, en plus de l'exposition, de proposer des processions, enfin des balades, déambulations sur des lieux d'anciennes processions religieuses, sur le cheminement de l'ancienne procession religieuse, mais d'y proposer une balade revisitée avec un côté artistique, avec des interventions d'artistes.
L'art remplace le religieux, quoi. C'est ça.
Ouais, ou en tout cas les deux dialoguent ensemble sur ces chemins-là. Et donc on en aura trois sacrées déambulations. La première, ça sera le mardi 30 juillet à Perlevade, et la seconde, le mercredi 31 juillet à Saran. Ces deux processions seront proposées par le collectif artistique Slowfest, avec cinq disciplines artistiques différentes. Et puis la dernière déambulation sera à Saint-Pantaléon-de-Laplau le vendredi 9 août, cette fois-ci en partenariat avec la compagnie du Festival de la Luzège pour son week-end de clôture.
Oui, celle de Perlevade, c'est à la Chapelle du Rat, c'est ça?
Oui.
C'est quand même une procession assez célèbre dans la région.
C'est ça, celle de Perlevade partira du village du Rat pour aller à la chapelle. Donc on parlera évidemment de la spécificité de cette procession-là. Et puis celle de Saran partira aussi du musée de Saran pour essayer de faire un peu dialoguer les objets religieux chrétiens de nos églises, qui sont majorité, enfin même quasiment entièrement de cette religion-là, avec d'autres objets religieux, d'autres religions qui sont conservés dans les collections internationales du musée de Saran. Et puis on montera au puits de Saran pour suivre ce chemin de cette procession.
Et ben voilà, tout un programme. Sur les animations, on a fait un peu le tour, David.
On a fait le tour large. Alors Zoé nous a fait voyager. À Mémac, il y aura aussi quelques animations. Le musée proposera 4 conférences. Il y en aura une qui sera animée par Pierre Ouzoulias, qui est sénateur des Hauts-de-France, originaire de Palisse, et qui a écrit en 2022 un rapport sur les églises. Et donc, il viendra nous parler un peu de ça. On va aussi recevoir Philippe Grandcoing, qui est un auteur de Limoges, qui a travaillé sur les pilleurs d'églises en 1900, la bande à Thomas. Ça avait fait un vrai scandale à l'époque. Il va nous expliquer tout ça. Et on aura aussi, on aura Monseigneur Laglaise, qui est un évêque qui est en charge des objets sacrés du diocèse de Tulle. Donc, il viendra nous faire une vision plus globale de ce qu'on peut trouver en Corrèze comme objet religieux d'exception.
Donc, à Mémac, mais c'est où, du coup ?
Ça sera au pôle culturel Claudel Païs, là où se tiennent beaucoup de conférences pendant l'année. Et en parallèle de tout ça, quand même, on peut aussi signaler que dans l'église, il y a Anne Guérand qui animera des moments de découverte autour de l'orgue qui est assez impressionnant de l'église de Mémac.
Ouais, l'organiste un peu attitré de l'église de Mémac.
Tout à fait.
Qu'on entend souvent quand on ouvre les fenêtres.
C'est ça, de nos bureaux, oui.
Alors tout ça, voilà, donc exposition, animation autour de l'exposition, et on voulait peut-être finir sur un peu des perspectives, ce projet assez global, on voit autour des objets religieux, c'est aussi une manière de réouvrir un peu les églises, en tout cas à un regard extérieur, de faire une sorte d'inventaire, et je crois que notamment vous, au Pays d'Art et d'Histoire, vous avez un peu des envies pour le futur.
Ben, en fait, c'est des envies qui sont venues plutôt d'envies des communes du territoire qui ont des besoins sur ces objets. C'était un peu de cette idée-là que ce projet d'exposition est né, qui ont des besoins financiers et techniques sur la conservation, protection, sécurisation, valorisation de leurs objets, justement. Et nous, en tant que label national et en tant que collectivité, on a une mission d'accompagnement des projets de valorisation du patrimoine du territoire, donc en partenariat avec le service patrimoine de Haute-Corrèze Communauté. Et on aimerait pouvoir aller chercher des financements, aller chercher des acteurs spécialisés de la question, des restaurateurs, des conservateurs, et pour pouvoir accompagner les communes dans justement la gestion, si on peut choisir un mot global, de ces objets-là, et même des églises de manière générale, dans l'idée de pouvoir les mettre en valeur, ces objets, les montrer, et du coup à terme ouvrir un peu plus les églises sur le territoire. Ouais, c'est vraiment un projet là qui commence avec l'exposition cet été, qui met en valeur ces thèmes-là, ces thématiques, ces objets, et qui est encore à construire pour les années à venir.
Et on se lance un peu dans un marathon avec cette problématique des églises, puisque c'est assez central, c'est le moment où il faut faire quelque chose pour pouvoir les préserver encore pendant plusieurs siècles.
Oui, je pense que vous aurez quand même quelques sollicitations. Si on sait que les habitants en général sont très attachés à leur église dans les communes. Je pense qu'il y aura du travail, effectivement.
C'est clair que c'est le monument majeur de toutes les communes et qui est présent sur tout le territoire. Donc même si c'est plus forcément un lieu de vie quotidien des habitants, ce qui était le cas il y a quand même quelques
décennies. Quoi.
Décennies, très bien. Et bien en fait, c'était un peu aussi un point de départ de l'expo, c'est que les habitants sont très attachés aux églises et aux objets qui appartiennent à l'église de la commune. Donc ouais, l'idée c'est d'utiliser ça pour les mettre en valeur le plus possible, quoi.
Mais voilà, donc pour déjà commencer par aller admirer ces objets, c'est du 15 au 22 septembre au musée Marius Vazeille à Meymac. Et puis pour les animations, bon, on peut retrouver les informations, j'imagine, sur quoi, le site
Sur le site du musée, il a été mis à jour il y a quelques jours, donc c'est bon.
Voilà, donc vous cherchez dans un moteur de recherche musée Marius Vazeille, vous allez trouver, c'est très bien indiqué. Merci David, merci Zoé.
Merci. Raphaël.